Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Merci, monsieur le député. On enchaîne avec le GG et vous. C'est Denis qui va commencer. On va reparler du avec Denis. Alors j'ai Denis, Marcel et Pat. Pardon pour les petites hésitations, mais c'est parce que j'ai un écran qui est en rade, pour être très franc avec vous. Et donc vous me dites que c'est Maxime. Oui, mais sauf. Alors attends. D'accord. Vous me dites Maxime, sauf que sur ma fiche, je n'ai pas de Maxime. Donc on me dit que c'est Maxime pour Didier Giraud. Sur quoi est-ce que vous pouvez me le répéter? Sur l'IGPN. Ok. On y va. On réécoute Didier d'abord et on s'en sort.
Drôle. Elle a dit utilisation de la force de façon circonstanciée. Alors certes, elle n'a pas tous les éléments, mais elle a.
C'est quand même curieux.
Elle oui. a mis en exergue le fait que les policiers n'ont pas fait de faute dans la chaîne de commandement. Pour moi, l'IGPN remplit son rôle. Mais alors après, est-ce qu'il faut changer les missions de l'IGPN? Peut-être. Mais son rôle aujourd'hui était de dire si administrativement les flics qui ont balancé des lacrymos, ils étaient dans leur bon droit ou pas. C'est tout.
Alors c'est effectivement Maxime, j'ai retrouvé aussi la bonne fiche, là c'était pour ma pomme, Maxime qui est commercial en Haute-Savoie, Annecy. Bonjour Maxime.
Oui, bonjour IGG, bonjour tout le monde.
Allez-y, Didier vous écoute.
Donc voilà, pour Monsieur Giraud, alors il faut savoir qu'aucun journaliste jusqu'à présent n'a été capable de nous dire combien d'enquêtes a été confiée à l'IGPN sur une année et combien il y a eu de sanctions sur des policiers. Alors, on ne l'a jamais eu, jamais personne ne l'a fait. Et vous, vous avez affirmé à l'antenne qu'ils faisaient bien leur travail et qu'il y avait même des sanctions. Donc moi, ma question est très simple. Où, quand, comment, qui?
Alors, Didier.
Moi, ce que j'ai lu, comme tout le monde, c'est que le rapport de l'IGPN dit c'est pas directement les policiers qui ont poussé le groupe de personnes dans la Loire. Et derrière ça, pour moi, la vraie question, c'est qui a commandé. Le vrai responsable, c'est qui a commandé de faire une charge de police à 4h15 quand la manifestation était autorisée jusqu'à 4h, quoi. C'est ça pour moi la vraie question.
Maxime. Vous avez dit que l'IGPN, donc, il fallait la garder. Parce qu'elle faisait bien son travail et qu'il y avait même des sanctions. Donc moi, ma question, c'est, ok, donnez-nous un exemple. Quelle sanction? Qui a été sanctionnée?
Plus globalement, au-delà de la mort tragique de Steve.
Du problème. Non, mais d'accord. C'est arrivé. Il y a des enquêtes, entre autres, je ne sais plus comment s'appelait le commissaire, là, sur des ripoux là, dans l'Est lyonnais. Là. C'est l'IGPN.
Néret,
c'est l'IGPN qui l'a sorti, l'affaire. Enfin, je veux dire que l'IGPN prononce des condamnations. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Non, franchement, il y en a tellement peu, on en entend tellement pas parler que.
Et c'est pas pour ça qu'il y en a pas.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses. L'IGPN, elle enquête sur les policiers. Est-ce qu'il y a eu manquement à ce qui à leur
c'est
tâche
ça, et puis après, transmet au parquet.
Et puis après, il y a l'enquête judiciaire. Et là, c'est l'enquête judiciaire qui devra.
Il y a aujourd'hui des enquêtes judiciaires qui ont révélé des travers de la police
involontaires
qui ont été déclenchés par l'IGPN.
Oui.
On peut pas dire le contraire.
Mais là, ce qui énerve Maxime.
Le problème, c'est que comme ces organismes ne sont pas indépendants, nous, Français, effectivement, on pourrait jamais leur faire confiance. Mais après, vous pouvez mettre les ministres dans le même sac qui sont jugés.
Non, mais bien sûr, mais puis il y en aura toujours, Maxime, pour nous dire que la justice non plus n'est pas indépendante. On le sait bien.
Ouais, malheureusement.
Voilà. Donc, du coup, comment on fait? On les élit? Il n'y a plus que
non,
ça,
mais
faut les élire.
On prend des organismes indépendants. À chaque fois qu'il y a des enquêtes, c'est jamais des organismes indépendants. Regardez Rugy. Rugy, on nous a dit « Ah non, il a été innocenté ». Bon, d'accord, par qui? Est-ce que c'était une commission indépendante? On apprend que non.
C'est la commission de l'Assemblée nationale, effectivement.
Oui,
mais
est-ce
Maxime,
qu'elle est indépendante?
Après,
non.
après, si vous voulez, ce n'est pas parce que l'enquête ne va pas dans votre sens ou de ce que vous attendez qu'elle a forcément tort non plus.
Ah non,
si
non, vous voulez, moi j'attends rien. J'attends rien.
Non, mais quand je dis « vous », c'est le citoyen. C'est pas vous dites bien sûr ils sont blanchis et forcément ils ont été couverts. Non, l'enquête, et on verra, peut aussi démontrer qu'il n'y a pas eu de faute. Ça ne nous convient pas, mais ce n'est pas parce que ça ne nous convient pas que la vérité est forcément masquée. Aujourd'hui, le problème, c'est cette défiance qu'il y a de manière un petit peu plus large. Non, mais... C'est pour ça qu'il sera important d'attendre l'enquête judiciaire qui, elle, est ouverte, il faut le rappeler, pour homicide involontaire en ce qui concerne
la disparition. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'en matière de violence policière, de temps en temps, ceux qui soient sur le banc des accusés, ce n'est pas ceux qui exécutent, mais c'est ceux qui lancent les commandements.
Les donneurs d'ordre.
Dans un instant... Alors là, je vous rejoins à 100%.
Merci Maxime d'avoir été avec nous. Dans un instant, suite du GG et vous avec Jean qui voudra reparler à Jérôme. Et puis Nadine, de nouveau avec Didier Giraud. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Est-il mieux se faire craindre ou se faire respecter?
RMC.
Nous sommes de retour
pour jouer en mauvais tour.
Afin de préserver le monde de la dévastation.
Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
9h midi.
Afin d'écraser l'amour et la vérité.
Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Alain Marshall.
Et Houston, on a un problème.
Vous êtes des grands malades.
Vous massacrerons jusqu'au dernier.
On peut discuter peut-être.
On peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner.
Les grandes gueules.
Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit.
Les GG, les grandes gueules qui vous redonnent la parole dans le GG et vous pour conclure l'émission. C'est Jean qui va reparler avec Jérôme Marty de la crise aux urgences. Ça a été ton coup de gueule tout à l'heure, mon cher docteur Marty. On te réécoute à propos des urgences et tu en parles avec Jean qui est du côté de l'Aude.
Vous avez un doublement des entrées aux urgences, 21 millions de passages. Pourquoi ? Parce que, en partie aussi, la médecine de ville s'effondre et il y a de moins en moins de médecins en activité parce que beaucoup de médecins déplaquent et que les jeunes n'osent s'installer avant 10 ans après la faculté parce qu'on a rendu cette profession tellement peu attractive qu'ils n'osent plus s'installer. Et donc, vous avez cette pression.
Mon cher Jean, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour les grades de gueule et bonjour au docteur Marty.
Bonjour. De Narbonne à Toulouse, on vous écoute.
C'est alors. Le derby. Voilà, c'est la 61 qui nous
le
dit.
Le derby. Allez-y.
C'est un cassoulet. Hein.
Oui, docteur, vous m'avez agacé. Vous m'avez agacé parce que quand vous annoncez effectivement les chiffres qui sont la réalité, hein, 21 millions de passages aux urgences, etc. Vous m'avez agacé parce que vous prenez pas votre responsabilité, docteur. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Je me fais mal pour un petit accident. Je me tombe quelque chose sur le pied et l'orteil se retrouve un petit peu écrasé et l'ongle forcément devient incarné. Suite à ça. Je décide d'aller voir mon médecin de Bretagne. Je lui dis, bon, voilà tout, il m'est arrivé ça. Vous pouvez faire quelque chose. Oh, il me dit, mais Jacques, il me dit, je peux pas. Va aux urgences. Il fait, vous rigolez, tout. Il n'y a rien à faire. Vous faites qu'à lever l'ongle, puis terminé. Ah non, mais je peux pas. Vous pouvez pas. Crac, je l'ai enlevé devant lui. Ah. Putain, mais à un moment donné, vous êtes des toubibs, vous n'êtes pas des prescripteurs de Bayer et de Syngenta et de compagnie, quoi. Donc à un moment donné, faites.
Hey, à quoi vous servez, enfin
ce pourquoi vous avez été formé, bordel. Voilà.
Alors
pour
vous répondre, cher Jean, la problématique c'est qu'une histoire de chasse ça fait pas une réalité, ça fait pas une globalité quoi.
Oui,
ce qui vous est arrivé ensuite, il y a tout le problème de la responsabilité que vous faites tomber quelque chose. Bon, j'étais pas là pour le voir, moi, donc c'est pas moi qui vous examinez, mais quand vous faites tomber quelque chose sur l'orteil, potentiellement il y a un risque de fracture de la phalange, avec potentiellement peut-être aussi le besoin d'une broche ou autre et besoin d'une imagerie et d'une radiologie. Alors je sais pas où est-ce que vous êtes, sur Narbonne ou sur la périphérie narbonnaise?
Non, sur la périphérie.
Voilà, bon, mais donc centre de radio, peut-être votre médecin vous envoie aux urgences pour que vous soyez pris en charge convenablement, c'est-à-dire qu'on explore la plaie, qu'on explore aussi le dommage possible osseux. Pour autant, oui. quand je vous dis, moi, que les médecins font le job, il y a 21 millions de passages aux urgences, il y a 300 millions de consultations par an par les médecins, et quand on rajoute les spécialistes, il y a plus de 550 millions de consultations. Chacun fait le job. Je veux dire, de l'aide-soignante au médecin, chacun fait le job. On tient tous à bout de bras un système qui est en train de se casser la gueule à force de lois à la con qui sont appliquées depuis des années et des années, sans tenir compte des cris d'alerte que fait la profession, et la profession tout secteur confondu, de l'hôpital public ou de la ville. Et aujourd'hui, on en est là, et vous souffrez parce que vous avez un manque de médecins, vos médecins souffrent parce que eux font le job par rapport à ce manque de médecins, et font encore plus, travaillent encore plus et sont épuisés parce qu'ils essayent d'absorber toute la demande en soins qu'il y a. Et chacun est là, et le seul qui fait pas le job face à ça depuis 30 ans, excusez-moi de le dire, c'est le politique.
Ouais, mais quand même, docteur, il y a une chose qui est certaine. Moi, j'ai eu deux docteurs dans ma vie. Le premier qui a fait valoir ses droits à la retraite, et j'ai été obligé d'en changer. J'ai pris donc un nouveau praticien. Voilà, j'ai donc eu deux toubibs. Le premier, qui était un praticien de l'ancienne génération, enfin moi ce que je connais, moi j'ai 54 ans, oui. J'ai connu les pharmaciens qui mettaient des pansements, quand vous tombiez dans la rue, vous vous rappiez le bout du nez, ils vous faisaient des pansements. Ouais. J'ai connu les toubibs qui vous faisaient effectivement toute cette petite bobologie, tout en étant d'excellents toubibs, hein. C'était pas de la... Et là maintenant, j'ai un peu de mal avec cette nouvelle génération de médecins, parce que il y a pas 36 000 façons de faire de la médecine. Mais par contre, moi, ce que j'ai un peu de mal avec cette fameuse responsabilité où tout le monde prend le parapluie, et puis à un moment donné, et puis finalement, on se retrouve avec des aberrations comme ça, où ceux qui doivent soigner ne soignent plus parce qu'ils ont plus.
Mais c'est le fait sociétal, si tu veux. Moi, j'ai un père qui était médecin aussi et qui faisait des accouchements. Aujourd'hui, tu vois plus de généralistes qui font les accouchements. Voilà. Il faisait de la sismothérapie. Tu vois plus de généralistes qui font des chocs en psychiatrie. Tu le vois plus. Bon, donc la médecine a changé. Ensuite, un problème de responsabilité civile professionnelle qui est énorme. Si tu prends les gynécos, un gynéco qui doit faire 300 accouchements rien que pour payer son assurance aujourd'hui, quoi. Donc c'est le monde qui est devenu fou. C'est la pression assurantielle.
C'est du réglementaire.
Les gestes de petite chirurgie, etc., que l'on faisait tous, ont tendance effectivement à disparaître par rapport à une responsabilité civile professionnelle qui a tendance à exploser parce qu'on s'américanise.
Jean, pour aller simplement dans votre sens, je ne savais plus, mais les médecins généralistes, il n'y en a quasiment plus un qui t'enlève les bouchons des oreilles. Je te jure que l'autre jour, il m'a dit « Ah ben non, je ne peux pas. »
Allez voir votre ORL.
Moi ça je le fais, et puis il y a beaucoup de médecins de mes confrères le font.
Je te promets. Il me dit « Avant, on faisait avec la poire, mais maintenant on ne fait plus avec la poire. »
À l'énéma, tu le fais.
On arrive à ce genre de truc où moi ça me gêne un peu parce que ceux qui doivent soigner ne soignent plus, et par contre on se barde de contre l'assurance qui font les choux gras.
La faute à la pression assurantielle est quelque part un petit peu aux patients. Après les médecins ils soignent. Après, tu peux pas reprocher à la jeune génération et aux médecins qui arrivent de ne pas vouloir vivre comme l'ont fait leurs seniors ou ceux qui les ont précédés. Quand tu avais des gens qui faisaient 80 heures par semaine et qui faisaient un splendide infarctus à 50 ans, parce qu'il faut pas oublier que t'as beaucoup de médecins qui se sont tués à la tâche. Et aujourd'hui les jeunes ne le veulent plus, et ils le veulent d'autant plus que l'acte médical est à 25 balles. Voilà. Tu leur mets l'acte à la hauteur de la moyenne européenne, tu leur donnes la possibilité de faire des passements, et tu verras que les mutuelles se battront pour rembourser. N'oublions pas que les gens cotisent toute leur vie pour des mutuelles qui, elles, font un profit énorme et ne ramènent aux soins que 50% d'argent qu'elles mettent de côté. Donc tout ça, si tu veux, tu réinstilles tout, tu donnes un peu de liberté et tu vas voir que les gens vont se réinstaller.
Merci Jean d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie un t-shirt DGG, un t-shirt des grandes gueules. Merci Jean. Tu vois les petites remarques là quand tu parles des médecins qui faisaient ci, qui faisaient ça, et je regardais un peu les réflexions qui arrivaient sur internet rmc.fr en instantané. Pour ça, on peut compter sur vous. Hein. Je vous remercie d'ailleurs, ça arrive live. Tu vois les bouchons dans les oreilles, ça fait marrer, mais on me dit effectivement, on me fait remarquer. Et les points de suture aujourd'hui, t'as plus un médecin qui fait les points de suture.
Jean, il fait ça.
Alors, il les fait aussi. Tu les fais encore ou pas?
Bien sûr. J'ai un veto qui les fait sinon.
Vous demandez à Jean, parce que vu ce qu'il a fait à son ongle, il vous fait avec les dents.
Mais alors, explique-moi. Pourquoi t'as des confrères qui font plus ça? Moi, deux médecins généralistes, j'ai des bouchons dans les oreilles négatifs. ORL, ou alors
t'as le coût de l'intervention, t'as le coût du matériel jetable, etc., qui peut aussi intervenir dans l'acte, probablement. Je l'ai fait, donc je peux pas parler à la place.
Et tu comptes une consultation normale ou tu rajoutes l'acte?
Une consultation d'urgence. La plupart du temps, c'est une consultation qui est demandée en urgence, quoi. Donc tu comptes un acte qui est un acte technique.
Donc c'est plus 25 euros, c'est combien dans ce cas-là?
Tu comptes, tu as un code comme ça, qui est un code CCAM. Non, pas du tout. Tu vas coter à peu près 49 euros.
D'accord. Okay. Dernier GG et vous, c'est Nadine qui veut reparler avec Didier Giraud, Nadine des Hauts-de-Seine. Vous savez, on a évoqué Jennifer qui a arrêté son spectacle pour dire aux spectateurs qui lui lançaient « Vas-y, enlève ton short », que ça ne se faisait pas. Et devant tout le monde, elle a remis à sa place. Donc, extrait de Didier Giraud et il en parle avec Nadine.
En position de force, elle est à son concert, c'est elle qui a le micro, quoi. Toute la salle est avec elle, donc à un moment donné, elle est complètement en position de force pour humilier ce gars-là, qui peut-être le méritait d'ailleurs. Je pense que c'est pas représentatif de la vie, ça. Tu dis, t'as de belles jambes, tu dis... À partir de quand tu prends le PV? Qui décide à partir de quand tu prends le PV? Comment tu vois, la police des mœurs, ça me fait peur, moi.
Nadine, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Allez-y, Didier,
bonjour
vous
à tous.
Écoute. Bonjour.
Alors, cher Didier, vous avez un accent qui fleure bon la nature, le soleil, etc. Mais des propos qui, eux, fleurent bon le sexisme. Bien sûr que Jennifer a eu raison de faire cette intervention, et je la salue d'ailleurs, parce que d'abord, elle a des milliers de fans, beaucoup de jeunes filles, qui la prennent comme exemple. Et de voir qu'elle réagit comme ça, en plein concert, pour remettre à sa place un monsieur, dont je n'aimerais pas être l'épouse au passage, eh bien je trouve qu'elle a raison. Si des personnalités ne prennent pas la main sur ce genre de propos, qui d'autre va le faire? C'est normal. C'est exactement quand on est dans une association comme les Restos, etc., on fait appel à des personnalités qui ont derrière eux des milliers de fans qui ont envie de les copier. Et j'espère que ces jeunes filles vont comprendre que non, on se laisse pas comme ça, on ne laisse pas un garçon faire des remarques aussi sexistes. Quand tu as parlé de la police des mœurs, j'aimerais quand même qu'on soit un peu calme, parce que la police des mœurs, demander aux Iraniennes ce que ça signifie, oui. Ça signifie la prison, ça signifie des décapitations, il n'y a strictement rien à voir avec les propos de Marlène Schiappa, en fait, c'est pseudo-loi, d'ailleurs je n'ai pas bien compris, parce qu'il faut se balader avec un flic à ses côtés,
pour oui, pouvoir dire,
ah bah tiens, lui, il m'a sifflé dans la rue.
Oui,
bon, il n'y en a déjà pas assez pour aller mettre les gens dans la flotte, je ne pense pas qu'ils vont nous suivre pour ça. Non, franchement, je ne comprends pas votre réaction.
Alors, Didier.
Alors, moi, sur ce qui concerne Jennifer, j'ai rien dit d'autre que vous. Si ce n'est que pour elle, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'elle était en position de force. Et après, dans vos arguments, vous m'enlevez pas mes inquiétudes sur où ça commence. Alors, on voit très bien ce qui est justifié dans le harcèlement de rue. Mais où est-ce que s'arrête le harcèlement de rue et ça devient une blague, quoi? Moi, j'ai pas compris c'était quoi la limite. Et je sais pas qui va fixer la limite. Et ça m'inquiète que des mouvements féministes extrémistes, parce qu'il y en a, puissent fixer le catalogue des blagues autorisées et des blagues non autorisées. C'est ça que j'appelle la police des mœurs.
Pardon Didier, il y a deux choses. Les blagues, moi je suis la première, il y a des blagues que je trouve un peu graveleuses, etc. Je ne vais pas m'élever contre ça. Je m'élève contre ceux qui, dans la rue, vous sifflent, etc. D'ailleurs, il faut se retourner et faire la même chose. Faut avoir je suis d'une génération différente. Je suis féministe, j'ai lutté pour beaucoup de choses. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas dans cette situation. Ça s'appelle... Il n'y a pas de limite. Enfin, si vous trouvez que si vous avez une fille, que des gars dans la rue la sifflent, moi, personnellement, je ne trouve pas ça... Ben voilà, non, ça ne se fait pas. Est-ce que moi, je siffle? Moi, je l'ai fait, ça. Vous avez un garçon qui vous siffle dans la rue, puis je me retourne et je fais... Oh, la bite toute petite. Généralement, ils n'apprécient pas trop, hein, parce qu'ils n'aiment pas qu'on réponde. Parce
qu'en
général, ce sont
ça surprend,
effectivement
ça...
des machos de la pire espèce. Alors, pour peu qu'ils soient avec des potes, en général, ça se termine assez mal. Moi, je m'en fous. J'ai une grande gueule, pour le coup, et je suis capable de répondre. Mais d'accord. Donnez ces exemples-là à des jeunes filles. Parce que elle, c'est la seule chose sur laquelle j'ai pas saisi ce que disait Jennifer, où elle parlait du voile. Non. Jennifer, on se voile pas, c'est bien tout le problème, c'est qu'on est en train de dire aux filles, cachez-vous, parce que les hommes...
Non, elle disait, vous vous habillez comme vous voulez.
Non, mais voilà, du coup Nadine, dans ce que vous dites...
Moi, je suis absolument fondamentalement...
C'est vous, Nadine, qui décrétez que ce monsieur-là était dans une blague machiste, sexiste et graveleuse. On n'a pas le visage du monsieur, il pouvait être complètement dans l'humour. Alors là, je me fais l'avocat du diable, mais il pouvait être complètement dans l'humour.
Moi, je vais aller voir Patrick Bruel et je vais lui dire, allez Patrick, retire ton slip. Non mais franchement, alors lui il va peut-être dire oui.
Ben Patrick Bruel dans ses concerts, il l'a déjà entendu, madame. Hein.
Ah bon, vous y étiez, vous avez déjà entendu
ça?
Ah
oui, J'ai été à des concerts de Patrick Bruel, il l'a déjà entendu, ça. Envoie ton pantalon. C'était régulier dans les concerts de Patrick Bruel.
C'était toi qui
demandais ça, les concerts de Patrick Bruel, parce qu'il trouve que c'est un peu mon métier, donc je n'ai jamais entendu des garçons ou des filles dire envoie-moi ton pantalon. Non, non, non.
Les Beatles et les Rolling Stones recevaient des petites culottes et certains en ont même fait des trophées.
Alors, c'est pas parce que. Non, mais je trouve. Enfin, je comprends pas votre attitude.
Nadine.
Elle a eu parfaitement raison de dire ça.
Et c'est ça qu'il faut retenir.
Ah, mais ça, on est d'accord,
Nadine. À très bientôt. Merci d'avoir alimenté notre discussion. On se retrouve, cher GG, à bientôt. On se retrouve demain avec Marianne Soubré, avocate, Étienne Liebig, éducateur. Nous serons avec Zora Bitant, 4 dans la fonction publique. J'ai vu que Zora, elle avait profité de cet été pour apprendre à nager, il me semble.
C'est vrai?
Oui, je crois que je l'ai vu passer. Oui,
j'ai vu passer ça.
Il faudra super.
Il faudra qu'elle nous raconte ça demain. Et à 11h, c'est Alexandre Jardin, le romancier, auteur du livre Le roman vrai d'Alexandre. Vous connaissez bien. Bah, c'est dommage, tu ne seras pas là. Hop, tant mieux, ça nous fera des vacances. À bientôt, mon cher Jérôme. Bon retour du côté de Toulouse, Saône-et-Loire pour l'ami Didier, banlieue parisienne pour Fatima. Bonne journée et à demain 9h pour les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.